Depuis le 25 août 2023, le DSA, Règlement sur les services numériques, s'applique aux très grandes plateformes présentes sur Internet. Le mardi 26 septembre, la Commission européenne a dévoilé une base de données qui recense des décisions de modération prises par les 17 acteurs du numérique les plus importants. Au total, ce sont 1,8 million de restrictions qui s'y trouvent, effectuées par TikTok, Pinterest, Google Maps ou encore AliExpress. Parmi celles-ci, une publicité désactivée par Amazon parce qu'elle contenait des vêtements provocants ou encore une image supprimée par Snapchat parce qu'elle participait à du harcèlement. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est le DSA ? Ce texte vise surtout à renforcer la lutte contre les contenus illicites. Ce qui est illicite hors ligne doit l'être aussi en ligne. Ainsi, il cherche à renforcer la transparence des plateformes et à les responsabiliser pour qu'elles prennent des mesures efficaces de modération des contenus. Le DSA aspire également à ouvrir la concurrence en garantissant une souveraineté européenne dans le numérique afin de ne plus dépendre des grandes plateformes américaines et chinoises notamment. L'Europe a voulu s'adresser à ce que l'on appelle les services intermédiaires en ligne. Pêle-mêle, ce sont les services de transport, plus généralement appelés fournisseurs d'accès Internet ou FAI, donc SFR, Orange Free, les services de cache qui vont stocker de la donnée temporairement pour faciliter l'accès et augmenter des performances dans le cadre d'une utilisation ultérieure de ces données, les services d'hébergement comme Dailymotion ou Le Bon Coin, les moteurs de recherche, mais aussi les plateformes en ligne, réseaux sociaux et places de marché. Le DSA introduit également la notion de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche. Les acteurs inclus dans cette catégorie comptent plus de 45 millions d'utilisateurs mensuels au sein de l'Union européenne, et du fait du nombre de personnes qu'ils touchent et du risque encouru, ces acteurs se verront ainsi imposer plus d'obligations que les acteurs précédemment cités. Un grand nombre des obligations prévues sont proportionnées en fait à la taille et à l'audience des acteurs. On retrouve ainsi des dispositions relatives à la transparence de ces plateformes, notamment au niveau des CGU ou de la publicité, des obligations concernant la protection des mineurs en ligne ou encore des obligations concernant des garanties mises en place pour les droits des utilisateurs, notamment via des mécanismes de signalement et de traitement interne des réclamations. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va donc voir comment ce règlement va être concrètement appliqué et également à quels enjeux il est et sera dans le futur confronté. Bonjour et bienvenue dans In My Data, le podcast qui décrypte avec vous l'actualité du RGPD. Je suis Geneviève Saquet, juriste et DPO chez Blockproof, et aujourd'hui je suis accompagnée de mes collègues, également DPO, Kou-Edith Pereira et Ryan Oliveira.
Bonjour Geneviève.
Alors, aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on se penche sur le sujet du DSA. Pour rappel, qui est applicable aux très grandes plateformes depuis le 25 août 2023. Donc vous avez entendu dans notre introduction cette petite mise en contexte. Et donc, maintenant qu'on a expliqué tout ça, d'après vous deux, quelles sont les problématiques qu'espère résoudre ce nouveau texte qui a fait beaucoup de bruit ces derniers temps ?
Le premier objectif, c'était tout simplement lutter contre des contenus illicites sur Internet et renforcer les mécanismes de contrôle que les législateurs ou la justice souhaitent mettre en place, est aussi créer une entité un peu extrajudiciaire, entre guillemets, ou qui se trouve en dehors du système de la justice qu'on connaît jusqu'à maintenant, et donner un cadre de fonctionnement à ces entités-là. Moi, je considère que ça a été vraiment la problématique principale que le texte souhaite aborder depuis cette année-là.
Après, j'aimerais rajouter aussi que le DSA s'inscrit un peu dans une guerre entre guillemets contre les intox en ce moment. On pourrait notamment rappeler le cas des intox assez répandus avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, où on pouvait retrouver nombreuses fausses informations sur le net. Et je pense aussi que le DSA vise à réguler ces fausses informations qui peuvent parfois être mises en avant par les réseaux sociaux. Et donc...
Effectivement, je pense aussi que c'est des problématiques qui sont importantes à souligner et qui posaient problème jusqu'à maintenant. Espérons que le texte résolve ça. Mais du coup, on a ces problématiques auxquelles espère répondre le texte, mais ces obligations, concrètement, comment elles vont être appliquées ?
Alors, ces obligations, elles seront divisées en quatre niveaux. On va avoir quatre niveaux d'obligation proportionnés à la taille et à l'audience de l'acteur en question. Donc on va commencer par un premier niveau, donc celui des services intermédiaires. À ce niveau-là, les obligations énumérées seront applicables par tous les services intermédiaires, que ce soit du plus petit au plus grand acteur, et on va jusqu'au quatrième niveau, donc celui concernant uniquement les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche, où cette fois-ci, les obligations énumérées ici ne seront applicables que par ces derniers. Donc au premier niveau, on va retrouver des obligations plutôt simples, basiques, principalement sur la transparence, notamment au niveau des CGU, ou au niveau de la mise en œuvre d'un rapport de transparence sur les activités de modération. Voilà pour le premier niveau. Ensuite, on peut retrouver le niveau des plateformes d'hébergement, comme l'a cité plutôt Geneviève, comme Dailymotion et Le Bon Coin, où cette fois-ci, on sera plutôt sur des mesures de signalement des contenus. On va devoir instaurer un mécanisme de signalement des contenus qui n'est pas forcément instauré parmi toutes les plateformes d'hébergement. Ou sur les plateformes en ligne, on va instaurer un mécanisme de signaleur de confiance, qui sera d'ailleurs une nouvelle notion, les signaleurs de confiance. Et en effet, les plateformes en ligne devront traiter en priorité ces signalements provenant de ces signaleurs de confiance, sous peine de se voir sanctionnés, hein, mais ça on en parlera un peu plus tard. Et enfin, le dernier niveau, comme on l'a cité juste avant, avec les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche, où cette fois-ci on va se focaliser sur les risques systémiques que peuvent engendrer leur activité, et donc ils vont notamment avoir des audits externes ou ils vont même devoir faire un rapport annuel sur les risques que leur activité engendre et prendre des mesures, évidemment, pour contrer ces risques.
Exact. Ce que tu as abordé, les points que tu as abordés, Ren, c'est intéressant parce que j'aimerais bien rebondir sur certains éléments. On a entendu plusieurs termes qu'on utilise déjà dans la mise en conformité RGPD, la transparence, les analyses et les risques. Donc oui, on revient sur les mêmes termes, mais sur un domaine un peu différent, sur le contenu publié sur Internet, un sujet bien particulier. Cette transparence vous permet de connaître le mécanisme de modération sur les plateformes. Et c'est très très intéressant parce qu'on peut aussi parler de prise de décision automatisée, parce qu'aujourd'hui, oui, demain, il n'y aura pas de ferme de modérateurs ou de lecteurs de contenu en ligne qui vont modérer chaque contenu. Il y aura forcément des algorithmes qui vont analyser, avoir des mots-clés que les plateformes vont identifier et publier dans le futur pour que le cheminement de prise de décision automatisée sera aussi clair pour le public. Donc ça rejoint également un autre règlement qui est en inclus ou qui est en cours de négociation aujourd'hui, qui entre dans le paquet réglementaire sur le numérique qui va sortir il n'y a pas longtemps. Donc ça c'est très important. De faire remarquer que ces rapports d'actualité ou ces explications, je suis certain, demain, il y aura des professionnels qui vont dire « Oui, c'est beaucoup de textes, beaucoup de pavés à lire, personne ne va le lire. » Mais l'important, c'est de ne pas devoir les lire au départ, c'est l'important, c'est de pouvoir trouver des informations. De ne pas devoir contacter service client et attendre 3 semaines pour avoir une réponse. Donc c'est là où c'est intéressant de vraiment appuyer sur cette transparence dans ce contexte-là.
Oui, puis on avait dit la même chose du RGPD, c'était beaucoup de texte pour pas grand-chose, alors qu'au final on voit que ça a beaucoup sensibilisé les personnes concernées sur la protection de leurs données, et c'est très probable que le même mécanisme de sensibilisation s'applique avec ce nouveau texte.
Exactement. Et donc c'est là aussi, c'est pareil, il faut toujours justifier ou faire des analyses de leur mécanisme de censure, entre guillemets. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des entités privées qui vont mettre en place ce mécanisme de censure de parole des personnes sur un sur l'espace numérique virtuel. Et donc, certainement, si on va retenir tel critère comme des critères qui vont faire éliminer ou faire sortir certains contenus. Il faut pouvoir justifier pourquoi on a retenu ces contenus-là. Donc c'est pour ça qu'il nous oblige de faire des analyses d'intérêt légitime, de censurer tel discours sur la voie numérique est important et justement il faut avec la je fais le parallèle avec le RGPD, on essaie de garantir la vie privée, une liberté, un droit fondamental, mais ici on essaie aussi d'équilibrer toutes les pratiques qui peuvent en être par rapport à la liberté d'expression. Donc ça, c'est très intéressant de mettre en balance entre les notions qu'on connaît aujourd'hui et celles qui vont arriver dans le futur. Ryan, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter.
Oui, non, je suis tout à fait d'accord. Hein. C'est vrai que c'est l'un des objectifs majeurs du DSA. Hein. C'est à la fois de réguler ces plateformes en ligne, tout en imposant plus de transparence, notamment au niveau des mécanismes de modération, tout en garantissant évidemment les droits fondamentaux de tous ces utilisateurs, et principalement, ça se voit, hein, la liberté d'expression.
Exact.
Parce que ça arrive très souvent, malheureusement, que notamment on peut poster YouTube, où on va avoir les utilisateurs qui vont voir leurs vidéos strikées, donc supprimées par les algorithmes, et sans savoir pourquoi, sans pouvoir parfois même opposer...
À la décision prise par l'entreprise, certainement. C'est ça la notion de. C'est ça l'idée d'avoir la justice. Ce sont des arguments. Chaque partie a le droit de dire pourquoi, comment. Et c'est ce qu'on craignait justement la communauté liée à la justice aujourd'hui, avant l'arrivée de DSA, justement, laisser la place à des entités privées de prendre des décisions qui viennent à l'encontre des droits et libertés fondamentaux. Donc ça, c'est un bon début. Peut-être c'est la pratique qui va vous nous dire, va nous faire ressentir si on se sent en sécurité ou pas avec ce genre de loi. Mais voyons ce que ça donne. C'est important de faire attention à à l'application de ces règles. Et je ne sais pas si vous avez aussi vu deux autres principes très intéressants introduits par le DSA. La première, c'est Know Your Business Consumer. Oui, ça veut dire que toute plateforme qui va héberger et publier les annonces de fournisseurs tiers ont aujourd'hui l'obligation de connaître ces fournisseurs tiers. C'est évident, ça rejoint d'autres règlements, d'autres règles existantes concernant même l'éthique. Ça rejoint aussi une question d'éthique, de connaître avec qui on fait l'affaire, justement, pour pouvoir garantir une sécurité vis-à-vis des consommateurs.
Et puis c'est aussi un moyen de lutter contre les produits illicites, notamment les contrefaçons. On va vérifier les informations des vendeurs et également, ce qui est prévu par le DSA, effectuer des contrôles aléatoires sur les produits que peuvent vendre ces business consumers.
Exactement. Donc ce qui nous permet aussi aujourd'hui d'avoir des moyens plus simples de signalement, des infractions pénales également, parce qu'Internet... Il n'y a pas que les dark web, hein. Il y a des plateformes accessibles même via Google. Des fois, on peut se trouver des sujets assez sensibles avec des ventes de produits illicites. Et donc, certainement, ça peut être un moyen de contrôler ce type de contenu illicite ou d'infraction pénale. Par contre, c'est aussi intéressant de pouvoir modérer ou déposer des réclamations ou des recours contre des décisions prises, parce que des fois, imaginez, à un moment donné, où on le voit tous sur Twitter, vis-à-vis de certaines idéologies politiques, certains tweets peuvent être, la personne peut être incendiée par une certaine communauté parce qu'ils ne sont pas d'accord.
Oui, ça va très vite. Les gens s'enflamment.
C'est ça.
Mais c'est pas le cas que sur Twitter d'ailleurs, parce qu'on voit les systèmes de modération sur les autres réseaux sociaux. Je pense notamment aux vidéos type Combini, Brut, etc. Qui souvent mettent en scène ou interviewent en tout cas des gens qui ont une position très marquée pour encourager justement au dépôt de commentaires qui vont être soit haineux, soit qui vont être totalement d'accord avec ce que dit la vidéo. Donc ça va faire plein de débats en commentaires et c'est comme ça que l'algorithme du réseau social va se nourrir. Mais sauf que pour les utilisateurs, c'est pas ça en fait. Et...
Pour l'humain.
Pour l'humain, exactement. Éthiquement, c'est pas bon.
Bah, je dirais bien, mais ça ne fait plus Twitter, ils l'ont, on va dire plateforme oui, X, ouais, parce que sinon on n'est pas à jour. Donc on va changer, oui, on parlait de X. Donc voilà, c'était l'un des points que je trouvais très très intéressant. Mis en avant par le DSA. Après, si je ne me trompe pas, Ren, ils avaient aussi abordé deux sujets très, très, très limitrophes sur la transparence des publicités en ligne et aussi par rapport à la coopération en matière de réaction aux crises. Je voudrais en parler, voilà, placer deux mots aujourd'hui par rapport aux publicités. Aujourd'hui, on le voit de plus en plus sur Facebook. On peut cliquer les trois petits points et voir pourquoi on a été ciblé par telle publicité. Donc, aujourd'hui, demain, ça va être répandu pour toutes les plateformes, hein, je pense.
Puis, pour revenir là-dessus, oui, il faudra déjà une transparence renforcée, évidemment, au niveau de ces publicités. Et évidemment, aussi, ce qui est rajouté par le DSA, c'est une interdiction de la publicité envers les mineurs, qui se fait toujours actuellement. Mmh.
Et donc, oui, ce qui démontre bien, c'est qu'on ne peut pas dissocier le secteur ou les acteurs du marché, parce que certainement, c'est eux qui vont introduire les fonctionnalités ou en réfléchir. C'est aussi leur responsabilité d'y réfléchir à des fonctionnalités et les présenter. Et ce texte est un très bon exemple qui nous permet de dire que okay, la loi arrive plus tard pour les légiférer, pour l'imposer à l'ensemble d'acteurs. Et moi, je trouve ça très, très intéressant. Et pour les juristes qui nous écoutent, vous savez tous, le droit arrive trop tard, mais c'est volontaire. Après, ce que j'ai trouvé intéressant, le deuxième point, c'était aussi par rapport à la coopération en matière de réaction aux crises. C'est une réalité. Malheureusement, je ne pourrais pas citer la source parce que je ne me rappelle plus, mais on peut essayer de trouver. Mais je pense que certains moteurs de recherche étaient capables de deviner les épidémies, pas des épidémies, les maladies virales, parce que ça commençait petit à petit. Certaines personnes qui cherchaient des cures, des symptômes, et ainsi de suite. C'est pas direct, c'est pas parce qu'ils vérifiaient la nature ou ils détectaient des virus. C'est pas du tout ce que je dis. Hein. Je veux pas non plus entrer dans un débat de complotisme.
C'est en faisant des statistiques sur statistiques, les recherches
exactement.
Des utilisateurs, on arrive à dégager des tendances sociétales, finalement,
exactement.
Qui s'appliquent à l'ensemble de la population. Ouais.
Et donc, ça peut aussi être réutilisé en cas de crise, justement, qu'on va avoir plus tard dans le monde. Donc, c'est ce qui est très intéressant, justement, pour pouvoir faire des protocoles, pour peut-être réactif, préventif aussi, mais plutôt dans le sens où, après que la vague est passée, comment est-ce qu'on peut en découvrir ou en dégager,
tirer
des leçons et avoir des actions mises en place pour contrer le revenu de cette crise-là.
Oui, et puis pour revenir là-dessus, encore une fois, une autre disposition du DSA, où la Commission européenne pourra notamment que ce soit à titre préventif ou à titre réactif d'ailleurs, exiger auprès des très grandes plateformes certaines mesures pour limiter les impacts ou justement les préjudices dus de ces risques systémiques. On pourra même rajouter, alors ça semble un peu moins probable que ça arrive cette fois-ci, mais il est même possible de prendre une mesure temporaire de restriction de l'accès aux services contre la plateforme. Ça peut sembler difficilement applicable, mais en cas extrême, pourquoi pas?
Oui, bah, ça rejoint un peu, ça se rapproche un peu des séries qu'on regardait avant. Je pense surtout à X-Files. Ça est peut-être en train de devenir une réalité. On ne sait jamais. Bon, je pense qu'on a parlé des points principaux et très intéressants que
Ouais.
je trouvais dans le texte.
Effectivement, ça c'est les points principaux du texte, mais j'avais quand même deux petites questions. Qu'est-ce qui va assurer l'application de ce texte? Pour la RGPD, on a la CNIL. Pour la télé, l'audiovisuel, on a le CSA. Est-ce qu'il va y avoir une autorité qui va être créée ou bien est-ce qu'on va utiliser une autorité qui existe déjà?
Je pense que c'est le CSA qui va se voir évoluer sa mission. Je ne sais pas s'il y a eu de dernières publications
Alors,
sur le.
il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que on a la création d'un coordinateur des services numériques dans chaque État membre et que pour la France, ce sera l'ARCOM, si je ne dis pas de
Ah oui.
bêtises. Et donc, du coup, ce coordinateur des services numériques aura à sa charge de superviser exclusivement les petites et moyennes plateformes. C'est-à-dire que la Commission européenne n'interviendra pas dans cette supervision. Néanmoins, pour les très grandes plateformes, ce sera différent, et pour les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche, ce sera différent parce que cette fois-ci, ce sera la Commission européenne qui aura la compétence exclusive pour superviser notamment ces acteurs dans le cadre du respect de leurs obligations systémiques, donc celles qui engendrent les principaux risques. Et enfin, on aura une coopération entre la Commission européenne et les coordinateurs de services numériques dans chaque État pour le respect de ces très grandes plateformes et moteurs de recherche dans leurs obligations non systémiques.
C'est ça. Je pense qu'on l'a vu, la Commission européenne est aussi en train d'apprendre de leur expérience, je pense. On parle de taxer des GAFAM au niveau national. C'est un échec jusqu'à maintenant.
C'est clair,
Donc je
ouais.
pense que c'est pour cela aussi que la Commission s'est dit, on va prendre la main sur ce sujet-là et garder. Avoir une autorité à un niveau rattaché à la Commission européenne. Donc ça, mais ce que tu dis, c'est vrai, ça sera plutôt aussi ARCOM qui va devoir assurer cette mission. Et donc, encore une fois, la démultiplication
Des
des
autorités.
autorités, peut-être aussi un bruit, justement, qui viendra camoufler un peu de l'intérêt de ce type de.
Effectivement, ouais. Et du coup, cette autorité, donc possiblement l'ARCOM, qu'est-ce qu'elle va avoir comme pouvoir de sanction exactement sur ces entreprises? Parce que d'accord, on a tout ce texte qui introduit toutes ces obligations, mais derrière, qu'est-ce que c'est les sanctions en cas de non-respect?
Alors, du côté des sanctions, donc ce qui est prévu par le DSA, c'est qu'en cas de manquement à une obligation, eh bien, les sanctions pourront s'élever jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial annuel pour une amende. Et dans le cas d'une astreinte, ça pourrait aller jusqu'à 5% du chiffre d'affaires annuel mondial. Néanmoins, ça peut quand même varier au niveau national, donc il est possible qu'on n'aille pas jusque-là. Mais en tout cas, c'est le maximal auquel on pourrait aller pour l'instant.
Dans tous les cas, c'est plus que le RGPD déjà.
Oui. C'est ça. Donc, d'où la question. Bon, parce que moi, je considère que le DSA vienne protéger la démocratie et aussi un peu la sécurité et sûreté des nations, de l'Union européenne surtout. Mais est-ce que ça veut dire que la démocratie est beaucoup plus valorisée que la protection de la vie privée ou de. Si on prend des pourcentages.
C'est sûr que la mise en balance, elle est pas équilibrée, ouais.
Après,
Ok.
oui, c'est sociétal, certainement. Donc ça, c'est très intéressant sur ce point-là.
Est-ce que vous voulez conclure?
Juste pour avant qu'on termine, pour rebondir sur un sujet très intéressant, le DSA introduit la même règle de nommer un représentant dans l'Union européenne. C'est parce que souvent, le risque d'intox venait d'autres pays, parce que c'est aussi là se passe la guerre aujourd'hui.
Oui, c'est pas que ça se limite pas à l'Union européenne, c'est
Oui,
ça le
c'est ça.
problème aussi, ouais.
Donc, si, de la même façon, si une plateforme ou un service va produire ou fournir des contenus à destination des résidents de l'Union européenne, eux, ils devront avoir un représentant dans l'Union européenne, justement pour pouvoir engager la responsabilité de ces entreprises par la suite. Donc ça, je trouve ça très intéressant et ça te démontre aussi un peu le mécanisme de défense qui est en train de naître dans l'Union européenne. On apprend maintenant de Cambridge Analytica, ce qui s'est passé avec le Brexit et aux élections aux
Effectivement,
États-Unis.
ouais. Ah oui, on a beaucoup à apprendre des événements récents qui se sont déroulés sur Internet. Est-ce que vous avez envie de dire chacun un petit mot pour conclure?
Oui, moi je pense que le DSA, il faut le regarder comme un texte qui vient pour le bien de la société. Parce que si aujourd'hui le système de la démocratie tombe, même si elle n'est pas parfaite, ça peut créer un peu le chaos dans le monde entier. Et donc, peut-être il faut garder une sorte de stabilité. Et donc, c'est pour ça ce texte entre en vigueur, justement, depuis cette année. Et il était temps.
De mon côté, je suis d'accord avec ce que vient de dire mon collègue. En effet, je pense que c'est une bonne avancée, le DSA, qu'on fait un pas dans la bonne direction et j'espère en tout cas que les obligations énoncées par le DSA seront mises en œuvre, auquel cas ce sera une bonne chose. Mais maintenant, il reste plus qu'à attendre en pratique.
Effectivement, c'est une très bonne conclusion. Ben merci beaucoup à vous deux pour cet épisode. C'était super intéressant, j'ai appris beaucoup de choses. Merci à nos auditeurs et auditrices pour leur attention. Et puis on se retrouve très bientôt évidemment dans In My Data.